Gad Elmaleh nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Gad.
Bonsoir Bernard, ça va bien?
Gad Elmaleh qui, 6 ans après Sans Tambour, est en tournée et une tournée internationale, remonte sur les planches pour un nouveau spectacle, un One Man Show qui est inédit, qui s'appelle D'ailleurs. Du 8 février au 26 février, il sera au Palais des Sports et ensuite en tournée dans toute la France. Alors, Gad Elmaleh, d'ailleurs, il y a deux lectures, il y a deux façons de le faire. Vous allez me dire comment on fait au cours Florent. Alors, il y a deux possibilités. On peut dire je suis d'ailleurs.
Ouais, complètement. Hein,
mais on peut dire aussi et d'ailleurs.
Je suis d'ailleurs.
D'ailleurs, je vais essayer de dire pour ta mère, Shabbat, tous les soirs, c'est pas possible. Tous les Shabbats, c'est pas faisable.
D'ailleurs.
Et d'ailleurs, c'est moi qui vais lui dire. Ou même c'est elle qui me l'a dit. C'est lequel des deux?
Ce sont les deux. C'est l'idée, le sentiment de jamais être réellement à sa place, de se sentir à côté, même on pense, quand on pense qu'on est chez nous. Et c'est aussi ce d'ailleurs, tu vois, avec, pour attirer un peu l'attention, le petit d'ailleurs qui est d'ailleurs, et je voudrais dire quelque chose. Il y a comme une précision à faire, il y a comme une histoire à raconter où j'ai besoin d'attirer cette attention, d'obtenir cette écoute. Après toutes ces années, après l'expérience américaine, après les films, après tout ça, je reviens sur scène, et aussi après une période compliquée où les artistes ont été privés de scène pour les raisons que tout le monde connaît.
Alors, vous êtes plus personnel dans ce spectacle, et une question justement personnelle. Mmh. Est-ce que l'époque du Palais des Glaces, l'époque de Abdelhazak, qui côtoyait d'ailleurs la maman juive qui accompagnait son fils au cours de théâtre, est-ce que cette époque du vivre ensemble vous semble toujours possible ou pas?
C'est une bonne question. J'ai déjà un petit peu de mal avec l'expression vivre ensemble. J'avais une grande discussion là-dessus ce matin. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le vivre ensemble, je suis totalement pour et j'espère.
Sans doute. Mais vous avez même été un porte-drapeau quelque part.
Oui, mais nommer une chose qui paraît être totalement organique, naturelle, instinctive, j'ai toujours du mal. C'est un peu, on va maintenant rentrer dans une période du soyons gentils. Après, on va être dans une période de, je sais pas, rendons-nous serviables. Et j'ai l'impression que le vivre ensemble, c'est comme le mot œcuménique, tu vois. Œcuménique, il y a une espèce de truc pas forcé mais plaqué. Dès que je vois des photos avec des représentants des trois religions, je suis content parce que je me dis qu'il y a de la paix, ça se parle, mais j'ai l'impression que ça doit être organique, ça doit être naturel, ça doit être presque à l'école, petit, qu'on apprend le vivre ensemble d'abord pour pouvoir un jour le vivre et non pas une fois que ça pète, de dire parce qu'aujourd'hui c'est pas du vivre ensemble qu'il faut qu'on fasse, c'est du se connaître, de comprendre, de avec nos problématiques on peut pas faire que du vivre ensemble. Est-ce que cette époque elle est révolue? Non. Est-ce que je continue à jouer avec ces personnages? Oui. J'ai l'impression que je le fais avec moins de naïveté ou de candeur, ils avaient une portée mais je m'en rendais pas bien compte, alors qu'aujourd'hui, bien que je reprenne quelques personnages, il y en a des nouveaux, aujourd'hui tout a une portée. Je dis pas que je fais attention à tout ce que je dis, mais j'ai plus conscience, et c'est normal, bien de la portée des mots que je dis. Et ben oui, parfois je revois mes textes et je me dis ah ça, j'ai envie de le dire, je vais continuer à le dire, mais je vais pas le dire pareil parce que j'ai pas envie de me faire taper dessus, donc je vais y aller de cette manière-là. Je me censure pas, mais nier le fait qu'aujourd'hui il y a une crispation sur certains sujets, ce serait de la naïveté, quoi.
Les racisés, je sais pas,
Genre, le sexe, la religion, ce sont des thèmes très très compliqués aujourd'hui. Et pourtant, je les aborde, et je les contourne un peu. Je fais un petit dribblage pour que ça passe, mais c'est important pour moi d'en parler.
Est-ce que vous vous êtes laissé aller à l'idée de je vais parler un peu différemment, parce que dans votre spectacle, oui, alors expliquez-moi.
Je me suis toujours moqué des journalistes qui disaient aux artistes est-ce que c'est votre spectacle de la maturité? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on me pose cette question-là et on me l'impose pas.
Non. Gad Elmaleh, est-ce que c'est le spectacle?
Merci Bernard. Merci.
Est-ce que c'est le spectacle de l'âge de raison?
Alors, c'est une bonne question.
Que je me suis jamais posée.
Oui. C'est comme quand les artistes disent c'est mon spectacle le plus intime. Ils disent non, mais c'est impossible. À chaque fois, tu dis ça. Moi, je pense que c'est le spectacle d'une étape, en tout cas. Je dis pas que j'en ferai plus, mais si je fais de l'humour après ce spectacle, ce sera très très différent. Dans la forme, pas trop dans le fond, mais dans la forme. Donc il y a une forme de... J'ai un peu moins d'appréhension sur les sujets que j'aborde. J'ai un peu moins, non pas une envie de plaire, mais de convenir. C'est pas très important. Et je parle très franchement des sujets qui me préoccupent avec humour. Les religions, encore une fois, la mort, je décris mes obsèques, Je vais sur des shows, des terrains sur lesquels j'allais beaucoup dans le privé avec mes amis et ma famille. Et on me disait, pourquoi tu fais pas sur scène? C'est trop drôle, ça. Et non pas que j'avais l'impression de rester en superficie, mais j'avais des personnages aussi. Donc c'était un masque. Et aujourd'hui, il y en a un peu moins. Il y en a quelques-uns dans le spectacle. Mais parler des mêmes thèmes sans le masque, c'est plus difficile, mais je suis plus capable de le faire. Le sketch que j'avais fait de Coco, par exemple, sur la mégalomanie d'un séfarade qui pense qu'on peut tout acheter, si je l'avais abordé de manière...
Je vous donne un joker.
Oui.
Est-ce que c'est Marco Mouli, ce personnage?
Alors, pour être tout à fait honnête, quand je l'ai... C'est deux personnes qui m'ont inspiré ce personnage.
Il y a eu
pas mal de lui, c'est vrai. Et quand on s'est rencontrés, il m'a tellement fait rire dans... Il était à fond, lui, il jouait pas un rôle. Il était
Coco.
Ah ouais, mais... Et donc, d'ailleurs, c'est le premier qui m'a fait une critique de Coco, où il était tellement dedans qu'il m'a dit...
c'était le meilleur.
Mais non, mais non,
il dirait jamais ça.
Il m'a dit, mais c'est pas ça l'histoire de Coco. Je dis, mais non, mais c'est un film, Marco. Mais normalement, Coco, il doit tomber au fond et après, il remonte. Mais il était super et il me fait beaucoup rire. Et c'est un autre homme que j'ai beaucoup aimé, paix à son âme, Simon Amar, qui avait ce gimmick de je vais les éclater, on vous éclate. Donc c'est deux personnes.
Vous êtes au top.
Je vais vous mettre au top. Et aujourd'hui, si je devais parler de la mégalomanie séfarade, ce serait, ou même à cette époque-là, en stand-up, en adresse directe au public, je passerais pour un. Enfin, vraiment, on me dirait, mais tu peux pas dire des choses comme ça. Mais avec un masque, avec un personnage, pareil, tu t'imagines chouchou. Travesti algérien.
Et c'était ça,
qui travaille dans un cabaret
à l'apocalypse,
qui dit des phrases soi-disant légères. J'adore les sushis. Imagine, et qui dit je déteste les barbes. Enfin, j'y allais, quoi. Et en même temps, ça.
Vous pensez que vous pourriez plus le faire aujourd'hui?
Oh, je devrais l'adapter un peu. Je devrais intégrer. Je pense que Chouchou aujourd'hui se moquerait du Yel. Elle-même dirait j'en ai marre, les toilettes pour hommes, pour femmes, j'ai juste envie de pisser, quoi, tu vois. Je pense que, enfin, parce que c'est moi qui vais là-dedans et qui lui donne ces dialogues-là, quoi. Je pense qu'elle casserait un peu ces codes-là en disant arrêtez de vous prendre la tête avec notre condition et arrêtez de vous projeter dans ce
Ça serait peut-être utile.
Ah, je pense. On va la faire venir alors.
Ben oui.
Eh bien, écoutez, on va l'inviter.
Est-ce que quelque part, Gad Elmaleh, est-ce que quelque part vous avez fait un peu revenir le vieux qui allait au McDonald's en disant il te donne la photo de ce que tu vas manger.
Wow.
Est-ce que, en parlant de votre grand-mère Simha, vous avez fait un peu revenir ce personnage?
Eh bien, je vous avoue que c'est parfois des choses assez évidentes qu'on ne voit pas. J'ai pas fait le rapprochement, bien que c'est simple, hein, c'est sa femme. Mais je dois dire que j'ai l'impression qu'ils sont porteurs un peu du même, pas du même message, mais c'est un peu les gardiens du temple, hein, finalement, les deux. Et c'est juste. Alors.
Mais c'est ce dont on parle.
Je vais l'utiliser demain dans une autre interview en me l'appropriant totalement.
Ben oui.
Puis je vais me faire à nouveau accuser de plagiat.
Vous savez que Bernard Tapie a dit ça à Jean-François Kahn. Il a dit mais c'est que moi je te pique des idées, hein. Mais je dis pas que c'est de toi. Hein.
C'est super.
T'es très bon, le problème c'est que tu sais pas les dire tes idées. Alors on a une grande discussion au sein de la
rédaction.
De la rédaction.
Faut-il l'inviter ou pas?
Non. C'est est-ce que votre maman vend du couscous? Alors je dois avouer, vous avez dit c'est le spectacle de la vérité.
Ah mais moi je vous dis tout.
Alors moi je pense que c'est une vanne. Jessica qui est dans le m'a dit non. Jessica qui n'a pas
Jessica,
mon âge,
elle
m'a dit.
Elle est dans les réseaux
sociaux aussi. Elle vend du couscous,
c'est un peu un raccourci. Bon, l'histoire est folle. Elle me dépasse complètement et ça lui appartient. Il faut savoir que ma mère est jeune entrepreneuse. Donc, à 80 ans, elle lance un business. Ça se passe comment? J'ai un ami qui est un start-upper brillant qui s'appelle Clément Benoît, qui avait fondé Stewart, qui avait fondé plein de start-up, des boîtes qu'il a revendues maintenant, qui est très doué et qui monte des start-up. Je l'invite à manger le couscous chez ma mère. Il se régale. En partant, ma mère me donne deux assiettes, donc une pour mon frère. Ma sœur n'était pas là, c'était une pour une voisine, je crois, et un coiffeur en bas qui l'avait dit, bon. Et je me mets à distribuer des boîtes de couscous. Moi, ça m'embête quand elle me dit ça. Et je suis gêné, j'ai pas envie. En plus, je rentre moi avec le couscous. Viens, viens voir, regarde.
Il y a une autre discussion dans la rédaction, c'est est-ce que c'est un couscous avec carottes ou sans carottes? Parce que vous savez qu'il y a des couscous sans carottes.
Ah oui, il y a de la carotte. Alors, c'est la tradition marocaine.
Ouais. Donc, je voulais qu'on fasse la précision.
Et très rapidement, Clément, qui est là ce soir-là, il rigole parce qu'il travaille dans la food tech. Il dit, mais pourquoi on vous le livrait pas à plus de personnes? Là, c'est 3 personnes, c'est dommage, il est bon à chaque fois qu'il vous en demande. C'est ma mère. Elle se démonte pas, elle lui dit, bien sûr, viens, on le fait. Moi, je dis, maman, il se fout de ta gueule. Et lui, il me dit, non, je me fous pas de sa gueule. Et donc là, ils ont installé tout un process, ils ont démarré une machine qui fait que, ils sont en train de le lancer, quoi.
Ouais. Alors, Jérémy Pompier.
Répondre à la question, ça existe.
Ah oui, oui. Walida. Ouais. Ben, justement, Jérémy, qui a 22 ans, m'a dit, ben, je vais te montrer, et il en a commandé cet après-midi. Et il m'a dit, tiens, ben, je vais te montrer. Il n'a pas appuyé sur les 22 euros à la fin.
Tu sais, t'as pas appuyé sur les 22 euros. Tu sais qu'il y a un truc qu'ils ont inventé, c'est la mergane. Tu sais ce que c'est? C'est la merguez vegan. Non, mais en vrai, c'est un truc de fou. Donc,
je croyais que c'était une voiture, moi.
Ah non, non. Mais, alors, la merguez vegan. Ah, c'est pas mal.
Moi, je croyais que c'était de l'oxygène pour les pompiers. On va entendre cependant comment la maman de Gad fait des bons produits.
Maman, qu'est-ce que tu fais là?
Je cuisine, tu vois bien.
Ah ouais, ça va, t'as tout ce qu'il te faut pour cuisiner.
Donc là, c'est Gad dans la cuisine de sa mère.
Ah oui, et je n'utilise que des produits du terroir.
Ah oui, du terroir.
Voilà, le terroir.
Et là, elle monte le tiroir.
Qui a trouvé la vanne? Maman ou Gad?
Il y a un secret de fabrication. Ah. On ne peut pas dire. Il y a un secret de fabrication.
Le père peut aussi. Le père est tout à fait capable de dire.
Non, le père, il est plus sur le corps. Hein. N'oubliez pas que c'est un ancien mime. Ma mère, elle est sur l'esprit. Elle est très rapide. Elle a beaucoup d'esprit.
Ah, d'accord. Donc, on sait ce soir que cette vanne, mesdames et messieurs, que vous voyez sur Instagram, c'est la maman de Gad qui l'a trouvé.
Elle a beaucoup d'esprit. Oui.
La maman de Gad, alors vous, par exemple, quand vous rencontrez le prince de Monaco, vous lui faites un geste qui quelque part entre Jean Castex et un cheval. Hein?
je décris que le stress de la situation m'avait fait adopter une démarche un peu bizarre. Et donc, ma mère, en revanche, elle est plutôt à l'aise dans toutes les circonstances. Et je me disais, moi, ma mère, avec des personnes, on va dire, d'un rang standing, elle va plutôt se calmer. En fait, non, ça la rend encore plus à l'aise. Et c'est comme ça qu'elle lui a dit, d'ailleurs... elle a appelé mon ordonnance.
Elle a appelé mon ordonnance.
Ouais, avec une ordonnance.
D'après ce que j'ai noté, elle lui fait une révérence à la Warzaza.
Parce qu'un truc qu'elle a inventé, quoi. Elle fait un petit freestyle.
C'est parce que vous avez abordé cet épisode de votre vie et que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posaient cette question. Ce passage à Monaco, vous y avez été heureux, vous y avez.
Mais c'est pas un passage. Ça fait partie de ma vie puisque mon fils y est né, alors il se trouve que là on parle de Monaco, mais c'est mon ex-compagne qui est de là-bas, et puis j'ai rencontré sa famille et j'ai été accepté dans cette famille, j'ai été accueilli dans cette famille.
Vous dites j'étais accepté comme un blédard.
C'est moi qui dis ça. De moi, parce que moi je parle toujours, et c'est pas uniquement à Monaco, c'est pour les États-Unis, pour Monaco, pour une nouvelle histoire d'amour, pour une première classe dans un avion, je dis toujours que j'ai...
On vient d'avoir un scoop là ou pas?
Un solo choisi. Ah ouais. Non, j'aimerais bien, cela dit, si vous avez quelqu'un. J'ai toujours ce
plus
truc.
Facilement que moi.
Non, ce truc que j'appelle le syndrome du blédard, c'est-à-dire que j'ai peur d'être pas à la bonne place, j'ai peur de dire le mot qu'il faut pas, tu vois. J'ai toujours, même si on m'a invité quelque part, enfin, je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais.
Si j'ai pris des râteaux dans ma vie, oui, beaucoup.
Pas que des râteaux, mais. Je sais pas, tu vas à l'hôtel, c'est quoi le syndrome du blédard? Tu vas à l'hôtel, t'as les moyens de payer ta chambre, mais quand même tu voles les petits shampoings. Ben, c'est comme ça.
Et à ta copine qui dit, pas le peignoir. Parce que là, on va se faire remarquer, oui. Pas le peignoir. Je veux bien les petits shampoings.
Je vous raconte une anecdote, il y a fort longtemps, je le dis, et c'est mal. J'ai pris un peignoir. Attends, je vais vous raconter l'histoire, elle est dingue. Dans un très grand hôtel, il y a 20 ans. Mais grand hôtel de ouf, le peignoir était tellement bon, c'était une doudoune. Je le mets dans ma valise. Et là, je pars à la réception pour le check-out. Je voudrais...
Une démarche entre le cheval et Jean Castex.
Et donc je dis, voilà, je voudrais... Et là, je vois qu'il y a... Bon, il me donne le truc, il voit que je regarde, et là, il me dit avec une élégance, alors, cher monsieur, nous sommes très heureux que vous ayez voulu profiter des beaux peignoirs. je sais pas, il me
ça
dit la marque. Non,
euros.
Il les avait mis sur le
ouais,
sur truc. Et voilà,
euros.
Nous sommes permis de. Voilà, j'espère qu'il vous plaira et que vous en serez satisfait. L'élégance de. À la place de Oul Haram, bien voler le peignoir. Viens ici, salopard. Tu vois. Genre, ça se fait pas. Genre, il m'a pas jugé, quoi. Tu vois. Mais il me les a mis sur la note.
Au Maroc, s'il te réveille pas. Il te réveille pas d'ailleurs quand tu dors à l'hôtel. Et qu'est-ce qu'il te dit le lendemain?
Ça, c'était une super anecdote. C'est le veilleur, le concierge qui, je dis au retour de tournée très tard, je suis fatigué. Demain, s'il vous plaît, pas de réveil, rien du tout. Qu'on ne m'appelle pas dans ma chambre. S'il vous plaît, personne ne me dérange. Ça, il n'y a pas de problème. Demain, alhamdoulilah, allez-vous dormir, c'est bien. Le lendemain, à 8h, le téléphone sonne. Je dis oui, c'est Hamid de l'équipe du jour, juste pour vous rassurer.
Tout va bien.
Personne ne va vous appeler. Le message est passé.
Gad Elmaleh, on viendra vous applaudir.
Merci, donc au Palais
déjà,
des Sports.
Absolument.
Il est important de dire à vos auditeurs qu'il n'y a plus de doute, les spectacles ont bien lieu. Parce que les gens sont dans une hésitation. Ils ne savent pas si ça va être annulé, reporté, décalé. Jean Castex, pour le renommer, il a fait une annonce. On l'a beaucoup aimé, Jean Castex, dans la communauté artistique il y a quelques jours. Il a levé les jauges. Et donc, les spectacles ont bien lieu. Ils ne sont pas reportés. Et c'est au Palais des Sports, qui est aussi le Dôme de Paris. C'est pas une
salle. Oui, c'est ça. Du 8 février au 26 février. Voilà. Après, pour tous nos amis qui nous écoutent, Radio Judaïque à Lyon, par exemple, c'est l'occasion de les saluer. Strasbourg,
ah bah oui,
Lyon,
Toulouse. Oui, je vais être à Lyon aussi en tournée. Toulouse nous écoute.
Toulouse nous écoute.
Bon, c'est Radio formidable. Vivre, écoutez,
Radio
à Vivre.
Toulouse,
voilà.
Radio Nice.
Eh ben, je serai à la Halle Tony Garnier bientôt, à Nikaya bientôt, à Nice.
Strasbourg.
À Strasbourg, au Zénith, bien sûr.
Bon, toutes les villes qui nous écoutent vous viendront vous applaudir.
Merci infiniment. Et nous, on se voit au Palais des Sports, alors.
Absolument. Et je sais que vous avez eu la gentillesse de venir à quelques places. Donc, à partir de demain, on fera gagner quelques places aux auditeurs de Radio Shalom.
Et s'ils sont bons, vraiment, s'ils sont bons, si le jeu, vraiment, je les rencontre après le show.
Oh.
Une petite rencontre.
Allez.
En VIP, tu as compris?
Rendez-vous pris, c'est enregistré.
Mais attends, mais je veux pas te voir arriver. Je veux pas voir les gens de la radio arriver. Hein. Je veux voir des vrais gagnants. Ok?
Bon, okay. D'ailleurs, j'ai gagné la place, moi. Donc
voilà, je peux me faire un petit plaisir.
C'est bon, j'ai gagné la place.
Je peux me faire un petit plaisir de nostalgie.
Vas-y.
Vous écoutez Radio Shalom. Il est 18h33.
Sachez, mesdames et messieurs, qu'il l'a vraiment fait pour de vrai il y a 20 ans.
Vous écoutez Radio Shalom, le journal de Bernard Aboif.
Sauf il est 18h.
Sauf que là, je suis en détente. Je te jure que je fais ça. Vous écoutez Bernard Aboif. Il est 18h. Vous écoutez Radio Shalom, 18h, le journal de Bernard Aboif.
Plus glorieux, d'abord c'est vrai, mais plus glorieux, après Gad partait le soir.
Il y avait Francine Akna.
Absolument. Ouais. Pour participer au spectacle de Eli Kaku.
Paix à son âme. Ouais.
Paix à son âme. Et vraiment jeune étudiant au cours Florent, Gad courait pour faire un tout petit rôle au point virgule. Merci à vous.
Merci
Bernard.
On était très
heureux de vous recevoir.
C'est cool.
Pour ce retour.
À bientôt.